France Inter, franceinter.com.
C'est alors que Cellier, accroché sur le marchepied d'une voiture, lança pour la première fois le refrain du 171e régiment d'infanterie, suivi de cessez le feu. La guerre était finie.
Ans d'histoire. Il y a 90 ans, jour pour jour, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de l'année 1918, de part et d'autre d'un front de 800 km de long, des centaines de milliers de soldats entendaient le clairon de leur régiment sonner le cessez-le-feu. C'était la fin de la Première Guerre mondiale. Après 1563 jours de combats meurtriers dans le froid et la boue des tranchées, l'Allemagne avait décidé d'arrêter la guerre. Abandonnée par ses alliés turcs, bulgares, autrichiens et hongrois, menacée à l'intérieur par une révolution, le gouvernement allemand avait confié à un député, Matthias Erzberger, la direction d'une délégation chargée de négocier un armistice avec le commandant en chef allié, le maréchal Foch. Dans la nuit du 7 au 8 novembre 1918, Erzberger franchissait le front à 21h30, puis rencontrait le lendemain celui qui devait le conduire en forêt de Compiègne, à Rotonde, dans le train qui servait de quartier général à l'état-major allié, le commandant de Bourbon-Busset.
Vers 9h, les auto-allemandes phares allumés arrivent à la villa accompagnés du capitaine Huillier. Les voitures étaient aux lampes de sphinx, avec des fanions blancs enroulés autour de leurs hampes en bois. Les parlementaires descendent de voiture. Je m'avance en me nommant et leur dis que je suis chargé de les amener auprès du maréchal Foch. Je monte dans la première voiture avec le ministre Erzberger. Nous partons vers 12h30 pour Cerny. J'avais reçu l'ordre de me rendre à la gare où nous devions prendre le train. Le train se met en marche vers 3h du matin. Vers 7h15, le train est arrêté. Je regarde par la fenêtre, il fait presque jour. Il y a du brouillard, je vois une forêt, c'était Rotonde. Et à 9h tapant, nous entrons tous dans le wagon du maréchal Foch.
Et ce célèbre wagon de Rotonde, on peut le voir parmi toutes les photos d'un beau livre sur le 11 novembre 1918, édité chez Perrin et écrit par mon invité d'aujourd'hui. Marc Ferraud, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en ce 11 novembre 2008, au moment où on célèbre partout le 90e anniversaire de l'armistice de 1918. Comment se fait-il d'ailleurs aujourd'hui qu'après la disparition des derniers poilus, en tout cas du dernier poilu français cette année, après 90 ans, et alors qu'une guerre plus meurtrière encore s'est produite entre-temps, comment se fait-il qu'on accorde encore autant d'importance à ce 11 novembre ?
En France, d'abord, je pense que ça tient au fait que c'est une guerre qui d'abord s'est déroulée tout entière ou presque sur le sol national, qui a détruit un tiers du pays. Ensuite, c'est une guerre qui incarne un peu l'union nationale comme on ne l'avait jamais vue. Et depuis quelques années, on s'en aperçoit, puisque lorsqu'on évoque le cas de ceux qui avaient refusé cette guerre, qu'on a appelé les mutins, à un moment donné, n'est-ce pas ? Maintenant, on montre que c'était aussi des vrais patriotes, mais qui avaient une autre conception de la façon de mener la guerre. Donc cette guerre incarne une unité nationale qui, dans l'histoire de France, est un moment à relever. Parce que nous sommes un pays de guerre civile, et cette guerre de 14-18, au fond, c'est un moment où aujourd'hui, justement, cette unité se sent quelquefois menacée d'un côté ou d'un autre. On aime se la remémorer. Je crois que c'est une des raisons.
Alors, c'est une victoire de la France, mais aussi, ne l'oublions pas, de ses alliés, et une défaite allemande que les Allemands eux-mêmes, en revanche, ont eu du mal à comprendre, car le 11 novembre, il n'y avait pas un seul soldat allié sur leur territoire. Ils acceptent l'armistice alors qu'ils occupent encore une grande partie de la France.
Bien sûr, et
ça peut surprendre de voir, d'où d'ailleurs l'idée qu'ont eu certains Allemands, le sentiment d'avoir été trahis.
Oui, mais avant d'avoir le sentiment qu'ils ont été trahis, ils ont eu le sentiment qu'ils n'avaient pas perdu la guerre. Mmh. Et lorsque le 11 novembre a été proclamé, des images le montrent, et on en reparlera sans doute.
Oui, on les voit dans ce livre.
À Berlin, la joie est aussi exubérante qu'à Paris, ou qu'à Londres, ou qu'à New York. Et pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, le sol de la patrie allemande n'a pas été violé. Et par conséquent, les soldats allemands peuvent considérer qu'ils n'ont pas perdu la guerre. D'ailleurs, on ne cesse de leur répéter qu'ils reviennent comme des héros vainqueurs dont le sol n'a pas été touché. Et c'est ça le grand malentendu aussi du 11 novembre.
Alors, c'est l'état-major allemand pourtant qui envisage, qui commence à demander quelles peuvent être les conditions d'un armistice, pour une raison très simple, c'est que leur situation militaire est très mauvaise à cette époque. Leur dernière offensive a échoué au mois d'août. Et puis surtout, ils ont perdu tous leurs alliés. Les Bulgares qui ont signé un armistice le 29 septembre, les Turcs le 30 octobre, les Autrichiens et les Hongrois le 3 novembre. Donc ils sont seuls, il y a des menaces de révolte. Et inversement, du côté allié, il y a l'apport considérable des renforts américains. Les États-Unis ont déclaré la guerre un an plus tôt, mais leur présence sur le front n'est effective qu'à partir de 1918, Marc Ferraud.
Vous avez dit, le mois d'août a été un mois tragique pour les armées allemandes. D'ailleurs, le 8 août s'appelle le jour de deuil de l'armée allemande. Et les illustrations montrent bien ces milliers de prisonniers qui ont été faits par les armées françaises et britanniques à cette date-là. Les alliés qui ont lâché, c'est une chose, mais c'est beaucoup moins grave que la faillite des grandes offensives allemandes de 1918 et surtout ce recul après la défaite de la deuxième bataille de la Marne. À ce moment-là, les généraux allemands, Hindenburg, Ludendorff, jugent que pour prévenir l'invasion du pays, il faut au plus vite signer l'armistice et surtout il ne faut pas laisser les civils prendre la main et en quelque sorte profiter de cette défaite pour faire une révolution qui aura lieu quand même.
Alors l'idée quand même chez Ludendorff, chez Hindenburg, c'est de se dire on va obtenir un cessez-le-feu, pendant ce temps-là on va se refaire, hein, c'est évidemment ce qu'ils font. Et alors ils se tournent, ça c'est aussi c'est essentiel, vers qui ? Vers les Américains, non pas les Français, non pas les Anglais, mais ceux qui à leurs yeux seront sans doute les moins exigeants. Ce sont les Américains qui n'ont pas d'intérêt immédiat à défendre en Europe et puis surtout qui ne sont que les associés hein, et non pas les alliés. La différence entre les mots est importante parce que ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent tout simplement quitter le conflit, Marc Ferraud.
Oui, d'ailleurs, lors des premières négociations à Rotonde avant et après, les Allemands font constamment allusion à Wilson. Wilson par-ci, Wilson par-là. Pourquoi ? Parce que les fameux points de Wilson sont tels qu'ils assurent en quelque sorte à une paix, une équité, qui ne sera pas d'ailleurs celle de Versailles plus tard, mais qui peut garantir aux Allemands que finalement les vainqueurs seront tolérants et appliqueront des principes justes, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui ne sera pas le cas d'ailleurs, comme nous le savons. Par conséquent, les Américains, c'est une sorte de bouée, une sauvegarde, et comme ils sont loin du front européen, les Allemands s'accrochent à eux.
Alors ça a duré comme ça pendant un mois, un échange de notes entre les Allemands et les Américains qui finalement poussent leurs alliés français et anglais à négocier un armistice. Ces négociations commencent avec Herzberger et Foch dans la forêt de Compiègne, à Rotonde, et c'est au moment où elle commence, qu'on apprend quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit en Allemagne, une révolution. L'empereur Guillaume II a abdiqué et à Berlin, le socialiste Philipp Scheidemann avait proclamé la République.
Arbeit und Soldaten. Furchtbar waren die vier Kriegsjahre.
Travailleurs et soldats, ces quatre années de guerre ont été terribles. Cruels ont été les sacrifices que le peuple a dû subir. Cette triste guerre est maintenant terminée. Soyez conscients de ce jour historique. Un travail immense nous attend. Tout pour le peuple, tout par le peuple. Soyez unis, fidèles et conscients de votre devoir. La vieille monarchie pourrissante est tombée. Vive la République allemande.
Et c'était la proclamation de la République le 9 novembre 1918, alors que à Rotonde, en France, les Allemands, une délégation allemande envoyée par le précédent gouvernement qui vient de tomber, donc, est en train de négocier. On apprend cette révolution qui fait tomber une vieille dynastie, les Hohenzollern, qui gouvernait la Prusse depuis le 15e siècle. Ça a failli, ça aurait pu compromettre les négociations d'armistice, Marc Ferraud.
Il y a deux, trois points. Il y a d'abord le fait que cette intervention de Scheidemann, comme celle d'Herzberger qui vient à Rotonde, l'un qui est du Zentrum, c'est-à-dire catholique, l'autre qui est social-démocrate, c'est ce qui a donné en partie naissance au mythe du coup de poignard dans le dos, c'est-à-dire que les civils de l'opposition profitent de la défaite pour susciter une révolution, y participer et amener quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Ça, c'est un premier point. Il y a d'autres points.
C'est-à-dire que dans l'esprit de certains Allemands, coup de poignard, ça veut dire qu'ils ont trahi l'Allemagne.
Ils ont trahi l'Allemagne. D'ailleurs, il y aura des tentatives d'assassinat contre eux pendant la période suivante. Donc ça, c'est quand même très, très important. Cela dit, cette révolution perturbe à la fois les dirigeants allemands et les dirigeants français. Les dirigeants français se demandent avec qui ils doivent négocier l'armistice. Ils le négocient pour l'instant avec Erzberger, qui est un catholique, enfin de Saint-Troub, avec Scheidemann, mais peut-être qu'il y a des spartakistes qui vont prendre le pouvoir, c'est-à-dire des communistes ouais. dirons-nous plus tard, n'est-ce pas? Et les Français ont peur, les Anglais aussi d'ailleurs, de négocier sur du sable. Et c'est pour ça qu'il faut vite conclure l'armistice. Et là, il y a un malentendu entre certains dirigeants français, anglais et américains d'un côté et les militaires, parce que certains, et notamment Pershing et Pétain, auraient voulu qu'on ne signe pas l'armistice tout de suite. Parce qu'eux, ils sont prêts à entrer en Allemagne. Ils sont prêts à occuper toute une partie de la rive gauche du Rhin et faire sentir aux Allemands ce que c'est qu'une occupation. Or, Foch, pour des raisons autres, juge qu'il faut signer tout de suite. Et c'est ça qui va amener une crise politique grave en France entre les uns et les autres, sans entrer dans les détails.
En tout cas, on signe le 11 novembre à 5h10 du matin. Vous dites qu'il a fallu reporter la date à 5h pour que ça fasse, je suppose, un chiffre rond. Un armistice, donc, qui doit entrer en vigueur 6h plus tard, à 11h du matin, une nouvelle aussitôt transmise par Foch à tous les régiments français, anglais ou américains qui se trouvent sur le front, Marcel Rivalin et Edgar Barber.
Tout d'un coup, vers 8h moins 20, il y a le cycliste qui est arrivé. Il a arrêté les gars, il dit « Tout est fini 11h », on ne voulait pas le croire. Le capitaine, il a trouvé le capitaine est arrivé, il dit « Les gars, arrêtez, tout est fini 11h ». J'avais mis ma montre, comme ça c'est un vieux souvenir, ma montre sur la table pour voir l'heure. Alors là, la matinée était longue. Et puis alors, tout d'un coup, on entend un coup de sifflet. Je sors en vitesse, fusil à la main, naturellement. Puis on aperçoit des Allemands, trois Allemands qui étaient au bout du camp, là-bas, puis qui nous faisaient signe. Puis, ils sont venus nous trouver, alors ils étaient enchantés, ils étaient aussi heureux que nous. Et puis alors, nous, madame les gars, c'était comme des fous. Tout le monde s'embrasse.
Nous étions quelques kilomètres derrière la ligne, en repos, et nous avons reçu la nouvelle le matin de l'11. C'était pour nous un soulagement à savoir que la guerre était finie et nous encore vivants. C'était l'armistice.
Ça y est, ils ont signé! C'est fini! Regardez! Écoutez,
c'est fini,
a été signé à 5h. 5e jour de novembre de l'an de grâce 1918, une grande date.
Matelot, emplis mon verre et chante avec les poilus. Nous avons gagné la guerre, un crois-tu qu'on les a eus. Matelot, envers à boire, et surtout n'y mets pas d'eau. C'est pour fêter la victoire, j'offre Foch et Clémenceau.
Et c'était la Madelon de la victoire, écrite en 1918 après l'armistice. C'était la fin des combats, mais pas encore la fin de la guerre. On ne fait pas toujours la différence entre un armistice et la paix, Marc Ferro. Il faut rappeler que l'armistice, c'est essentiellement, sous certaines conditions, un cessez-le-feu. Ce n'est pas la paix.
C'est un cessez-le-feu et dont les conditions surprennent les Allemands, d'ailleurs, parce qu'elles sont relativement dures. D'ailleurs, les conditions d'armistice sont intéressantes parce qu'elles nous donnent des chiffres auxquels on ne s'attend pas sur ce qu'on pouvait demander aux Allemands ou pas. Par exemple, un certain nombre de mitrailleuses, n'est-ce pas ? On demande 25 000 mitrailleuses. Donc, ils avaient 25 000 mitrailleuses en réserve. On demande 1 500 avions. Donc, ils avaient 1 500 avions en réserve. Et ces chiffres, on ne les a jamais communiqués, parce que secret de guerre, bien entendu. Donc, ces conditions sont humiliantes, puisqu'ils ne se croient pas vaincus, il ne faut jamais l'oublier, et que néanmoins, on va les désarmer, on va occuper la rive gauche du Rhin, etc., etc.
Oui, parce que la volonté, en fait, c'est d'empêcher, contrairement à ce qu'espéraient Ludendorff et Hindenburg, la reprise, le fait qu'un cessez-le-feu permette à l'Allemagne de se reconstruire, là, on lui en retire les moyens, de reprendre le combat. Il y a, donc, vous l'avez dit, le désarmement de l'armée. On va demander, par exemple, l'artillerie lourde. Il y a également l'occupation de toute la rive gauche du Rhin et de 10 km sur la rive droite. Il y a aussi, alors quelque chose de très humiliant, on exige de l'Allemagne qu'elle libère ses prisonniers de guerre, car il y en a beaucoup en Allemagne. Il y a 500 000 prisonniers alliés en Allemagne. Et en revanche, on garde les prisonniers allemands qui sont prisonniers en France jusqu'à la signature de la paix.
Oui, mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que on demande à l'Allemagne de livrer un certain nombre de matériels sans se rendre compte que le pays de là-bas est intact. Donc dès demain, ils peuvent refaire des mitrailleuses. Dès demain, ils peuvent reconstruire des avions. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs en 1919, 1920, en douce, bien entendu. Alors qu'en France, le pays est détruit et pour qu'il puisse redevenir opérationnel d'un point de vue militaire, il faut attendre des années. Par conséquent, d'une certaine façon, on a pu le dire après coup, sur le moment où on ne s'en est pas rendu compte, mais comme on va le dire tout à l'heure, il y en a deux ou trois qui s'en sont rendus compte de ce fait. Les vainqueurs sont peut-être les vaincus. Parce que la France, certes, a gagné, mais elle a eu plus de morts proportionnellement que les Allemands. Son territoire a été en partie détruit. L'Allemagne, elle, est intacte. Et du même coup, elle pourra, non pas régénérer, mais se développer à grande vitesse, alors que la France, vieillie, ne pourra pas. Et c'est pour ça que De Gaulle pleure quand il apprend les clauses d'armistice.
Alors, il y a évidemment, parmi les toutes premières clauses, il y a eu 34 articles dans, dans ces conditions d'armistice. Il y a évidemment la libération du territoire, on le rappelle, vous le disiez à l'instant, il faut quand même ne jamais l'oublier, l'Allemagne occupait encore, quand elle a signé, une grande partie de la France, dont deux départements, enfin dont l'Alsace et la Lorraine, qui étaient occupés depuis 48 ans. Alors là, évidemment, je suppose que la liesse, on le voit d'ailleurs dans votre livre, Marc Ferraud, a été considérable.
Oui, bien sûr, parce que...
Quand les troupes françaises sont arrivées après le départ des troupes allemandes.
On sait bien que finalement, les Alsaciens et les Lorrains, en majorité, étaient francophiles. D'une part, après 70, certains avaient quitté le pays, avaient émigré, par exemple en Algérie ou ailleurs. D'autres avaient joué une sorte de résistance intérieure. Et malgré tout, ce qu'on a pu dire, même si le régime allemand n'a pas été si dur que cela pendant les années 70-14, en gros, Alsaciens et Lorrains préféraient la République. Par conséquent, la liesse que l'on a vue est une liesse véritable et ce n'est pas une liesse vis-à-vis des vainqueurs.
Et une liesse que l'on retrouve aussi à Paris, où l'annonce de l'armistice est accueillie avec enthousiasme, où elle provoque même d'immenses manifestations sur les grands boulevards et puis sur la place de l'Opéra, où la cantatrice Marthe Chenal improvisait une Marseillaise. On écoute un autre témoin de ce 11 novembre 1918 à Paris, Reynaldo Hahn.
Je suis donc l'un des premiers à apprendre que l'armistice était signé, et l'un des premiers à ressentir cette joie délirante qui, quelques heures plus tard, s'emparait de la France entière. Ce que je me rappelle nettement, c'est qu'à minuit, passant au coin de la rue Mogador et du boulevard Haussmann, je vis devant un café des gens qui chantaient la Marseillaise. Ils la chantaient trop mollement. Et sautant sur la table, j'entonnais « Allons, enfants de la patrie, avec une flamme et une force, les assistants et les passants se mirent à chanter avec moi. Mais je vous garantis que c'était très beau, car c'était chanté du fond de l'âme.
À travers les fenêtres grandes ouvertes, j'aperçus la place.
Marthe Chenal.
Sur le terre-plein, ce n'était plus une foule. Mais un océan, 20, 50, 30 000 personnes étaient là, chantant, criant, applaudissant.
Les plus vieilles archives de la radio, Marthe Chenal chantant la Marseillaise sur la place de l'Opéra le 11 novembre 1918 à Paris. C'était le délire. Il y a de nombreuses photos justement de ces manifestations de joie, pas seulement à Paris, Marc Ferraud.
Dans le monde entier.
Oui.
Jusqu'à Sydney, en Australie.
Pékin. On voit même une photo de Pékin.
Pékin, et puis dans les capitales des pays libérés après le départ des Autrichiens, en Europe centrale et ailleurs. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que on n'a peut-être pas assez insisté sur ce point, c'est que les soldats qui viennent, qui rentrent à Paris à ce moment-là, sont un peu choqués par ce délire. Eux, ils ont connu l'armistice, bien sûr, en balbutiant, si j'ose dire, parce que, comme vous l'avez dit, ça ne s'est pas fait en une heure ou deux. On a attendu, puis c'est venu, puis c'est pas venu, puis on n'y a pas cru. D'ailleurs, on ne connaissait plus les notes qu'il fallait pour au clairon.
Pour sonner le cessez-le-feu.
Le
oui.
cessez-le-feu. C'était incroyable, on ne pouvait pas croire que ça avait lieu, on avait trop attendu, on avait été trop déçus, il y avait eu trop de morts, il y avait eu trop de souffrances. Et le délire des gens de l'arrière apparaît comme quelque chose, je dirais presque d'inconvenant. Et parce que ceux qui ont souffert ne peuvent pas tolérer ces choses-là. Et ça va amener un divorce entre les anciens combattants et l'arrière qu'on va retrouver pendant l'entre-deux-guerres, n'est-ce pas, et qu'on connaît bien. Et ça, c'est un point qui, dès le 11 novembre, apparaît d'après un certain nombre de témoignages.
Et puis, alors, tout le monde n'a pas lieu d'être heureux. Il y a quand même dans cette affaire, vous le rappelez, Marc Ferro, 1 400 000 Français tués. C'est-à-dire, on y pense rarement, j'ai entendu ça ce matin dans le 7-10, mais des veuves, 600 ou 700 000 veuves, on en voit en photo comme ça en train de danser, c'était d'ailleurs un peu après l'armistice, mais évidemment, il y a quand même beaucoup d'amertume dans cette joie du 11 novembre.
Elles dansent parce que elles dansent en noir, oui. Habillées en noir. Elles dansent en noir pour qu'on ne les accuse pas, en quelque sorte, d'exploiter leur souffrance maintenant que la guerre est finie. Donc il faut une rupture. Elles dansent aussi pour, en quelque sorte, entamer une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie aura lieu. Et il y a des travaux qui ont été faits qui montrent bien que les femmes, finalement, après la grande souffrance qu'elles ont connue, vont régénérer assez vite. Et d'ailleurs, il y aura de la rancœur chez les hommes de l'entre-deux-guerres contre les femmes qui ont été peut-être, qui ont trop vite oublié leur mort. Donc là, il y a tout un problème qui a été caché à l'histoire et dont il faut parler, bien sûr, parce que c'est une souffrance supplémentaire.
Et puis alors, évidemment, on n'est pas aussi heureux selon que l'on est vainqueur ou vaincu, parce que très vite, on déchante en Allemagne. On voit encore une fois dans ce livre l'exubérance des Berlinois accueillant leurs soldats. Ça va vite passer. Ils vont très vite comprendre quand même que dans cette affaire, c'est eux les vaincus, Marc Ferro.
Ils n'ont pas compris. Ils sont passés de l'allégresse et de la joie à la fureur. Ils jugent qu'ils ont été trompés. Ces soldats qui arrivaient, la fleur au fusil, à qui les jeunes femmes lançaient des fleurs, comme en 14 quand on partait à la guerre, et subitement on apprend qu'ils n'ont pas gagné la guerre, mais qu'on les traite maintenant comme des vaincus et qu'on va les occuper, c'est la colère. Ça annonce le nazisme. Le malentendu du 11 novembre à Berlin est sans doute l'événement le plus grave de l'histoire. Toute la suite des événements date peut-être de ce malentendu tragique, n'est-ce pas ? Ça, il ne faut pas l'oublier.
Il y en a un qu'on voit en photo, un Allemand, qu'on voit en photo dans votre livre aussi, et qui, lui, est blessé. Il vient de subir une attaque au gaz à Ypres. Il est en Poméranie, à l'hôpital, et c'est Adolf Hitler. Lui, le 11 novembre, il ne l'aime pas.
Il n'aime pas le 11 novembre. Il raconte plus tard qu'il a pleuré le 11 novembre en apprenant l'armistice. Mais il n'y a pas que lui qui a pleuré. Tout à l'heure, j'ai cité De Gaulle.
Alors lui, il est prisonnier depuis 1916. Oui. Il est en Lituanie quand il apprend l'armistice.
Mais il n'a peut-être pas pleuré au sens propre, mais dans les lettres à sa mère, il dit sa douleur, sa souffrance. Parce qu'enfant, on le sait maintenant, il attendait de lui un grand destin. Et pendant cette guerre, il n'a été que, j'allais dire, que peu blessé, puis fait prisonnier. Donc sa vie, il ne pourra pas oublier cette humiliation que cette grande guerre...
Il ne peut pas y avoir participé.
Il y a participé que très, très, très peu, et pour lui, c'est une honte que toute sa vie, il va vouloir racheter. Et puis, il y en a d'autres qui ont pleuré. Il y a Pétain qui a pleuré aussi.
Oui.
Alors, pourquoi il a pleuré, Pétain ?
Il était commandant en chef de l'armée française, sous l'autorité de Foch, mais oui. Il était le numéro un de l'armée française.
Alors, il a pleuré, ce n'était pas de joie. C'est parce que lui et Pershing souhaitaient...
L'Américain, le commandant en chef américain.
Souhaitaient rentrer en Allemagne, que l'armistice n'ait pas lieu tout de suite, et on lui a soufflé sa victoire. Sa victoire sur le terrain. Et après-guerre, on verra bien qu'il est le clan Foch, et que toute sa vie... Il va avoir du ressentiment contre Foch, contre Weygand, contre tous ces gens-là qui l'ont empêché de fouler le sol allemand.
Alors cet armistice, on le commémore aujourd'hui comme on le commémore depuis 1922. La grande fête après l'armistice du 11 novembre, ce n'est pas le 11 novembre 1919, c'est le 14 juillet 1919. C'est en 1922 que cela devient une commémoration officielle, donc qui est célébrée depuis 1922 avec l'interruption de l'occupation, où il y a eu une manifestation spontanée d'étudiants qui manifestaient leur opposition à l'occupation en manifestant contre les autorités allemandes et françaises le 11 novembre 1940. Mais en revanche, on a depuis célébré l'armistice comme ce 11 novembre 2003, France Inter, Lise Joly.
Aujourd'hui, Jacques Chirac en personne a ravivé la flamme sur la tombe du soldat inconnu, ce soldat enterré sous l'Arc de Triomphe et qui symbolise tous les poilus tombés pour la France pendant la Grande Guerre, celle de 14-18 en Alsace, qui pendant la guerre était encore allemande. On a également commémoré cet anniversaire à Benfeld, parmi la soixantaine de personnes qui étaient là, de nombreux enfants Marie et Léo n'ont que 10 ans. La guerre de 14-18 pourrait leur sembler très loin. Et pourtant, écoutez-les au micro de Stéphanie Hildebrandt de France Bleu Alsace.
C'est l'armistice, le jour où on a gagné.
C'est la commémoration de l'armistice de la guerre 14-18. C'est deux pays qui ont signé la paix. Pour moi, c'est assez émouvant, quoi, quand on pense à tous les soldats qui sont morts pour nous, pour qu'on ait la paix. C'est quelque chose qui reste dans le cœur, quoi.
C'est quelque chose qui reste dans le cœur. C'est un enfant qui avait 10 ans en 2003 et donc qui est né 75 ans après l'armistice. Un commentaire peut-être sur ce qu'on vient d'entendre, Marc Ferraud, l'intérêt des jeunes enfants pour ce moment de l'histoire.
Je ne pense pas que les enfants n'aient de l'intérêt que pour ce moment de l'histoire. Je pense que toute la vie, on garde l'empreinte de ce qui vous a ému quand on était enfant. Et là, ils ont été émus par cela. Et ça va rester. Et au fond, l'identité d'une nation, c'est de garder l'émotion qu'on a eue quand on était jeune, en ayant appris des faits qui nous concernent, qui ont concerné notre pays. C'est ce qu'on a appris enfant, gardé comme enfant, qui dure le plus longtemps dans la vie, alors que le reste disparaît, les opinions notamment.
L'émotion dont vous faites preuve vous-même, d'ailleurs, en ce moment. Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Est-ce que c'est encore une victoire?
On célèbre plus l'union nationale que la victoire. Car cette victoire, on ne l'a pas eue seule, il ne faut pas l'oublier. On l'a eue plus seule et on y a plus participé que la Deuxième Guerre mondiale. Mais on célèbre l'Union nationale. On célèbre aussi le fait que ça a été l'occasion, en quelque sorte, de se retrouver tous ensemble pendant 50 ans ou 60 ans et ensuite de recevoir la leçon, si je puis dire, d'un armistice et surtout d'un traité mal conçu. Ça a fait réfléchir.
Oui, parce que c'est la commémoration d'un échec, non pas d'une défaite, mais d'un échec. Cette guerre qui s'est terminée en 1918 devait être la guerre des Dères. 22 ans après, ça recommençait.
Et surtout, elle a recommencé par une défaite de la France autrement plus grave que la victoire de 14-18.
Nous en parlerons justement de ces conséquences de la guerre pour la France, pour le reste du monde, après-demain, puisque nous serons en direct et en public au 19e Festival international du film d'histoire à Pessac. En tout cas, merci Marc Ferraud de nous avoir rappelé ce moment considérable qu'a été ce 11 novembre, qui reste et qui restera sans doute longtemps, une commémoration nationale. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, magnifiquement illustré, le 11 novembre 1918, qui a été publié chez Perrin. À lire également deux albums, Carte postale de Poilu de Georges Clochenler et Jean-Yves Le Naour, et Cicatrice, la grande guerre aujourd'hui de Stéphane-Audouard Rousseau et Guerre de Krumaich, photographie de Jean Richardot. Vous pouvez retrouver sur notre site franceinter.com d'autres références, et elles sont nombreuses en ce 90e anniversaire, d'autres références d'ouvrages sortis. Donc, sur notre site France Inter, deux festivals également de cinéma qui commencent aujourd'hui, à part le 19e festival de Pessac dont j'ai parlé, le 7e festival du film de Compiègne jusqu'au 15 novembre. Puis vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Antoine Viossa et Sandrine Laurent. Documentation, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Franck Olivard et Frédéric Martin. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, nous irons très loin dans le passé pour parler des Grecs et la mer dans l'Antiquité.